montré qu'il était possible scientifiquement d'aborder ce sujet-là. Par exemple, des expériences de mort imminente. Faites par exemple que des gens disent être sortis de leur corps, une personne qui a un accident de voiture et qui dit « j'étais au-dessus de la Seine, je voyais les pompiers ». Là, c'est là où mon ADN de journaliste reprend les commandes. Bah là, je vais enquêter par exemple sur ce type de témoignage. Non, c'est de la fiction par contre.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est deux check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendue enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life. Choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000% podcast. Aujourd'hui, on va faire un épisode hors série. Vous savez qu'on parle beaucoup de santé, nutrition, performance. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à l'après. On a la chance de recevoir Stéphane Alix qui a fait une enquête pendant plus de 15 ans sur justement, y a-t-il une vie après la mort? Il va nous parler de cette question que tout le monde se pose personnellement, et je pense que même l'homme s'est posé depuis la nuit des temps. Donc, accompagné de Vincent, de la team 1000%, comment ça va?
Ben ça va, on vient de tourner un week-end tous ensemble avec l'équipe de 1000% et c'était incroyable. Donc voilà, très content d'écouter Stéphane aujourd'hui.
Eh bien super Stéphane, on va te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc raconte-nous un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a donné justement envie de faire cette enquête. Merci beaucoup en tout cas d'être présent. Et j'en profite d'entrer pour parler de ton livre, La Preuve, qui est sorti. Je crois que c'est le troisième. Enfin, moi je me suis arrêté à trois, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, plus peut-être.
Non, plus d'une dizaine.
Ok, bon, moi je me suis arrêté à trois sur ce sujet-là. Mais voilà, on va parler de ce livre justement dans cet entretien. Donc merci d'être présent et je te laisse te présenter.
Bah, merci à tous les deux de m'accueillir effectivement dans ce podcast. Moi je suis journaliste, je suis d'abord journaliste d'investigation, j'ai été reporter de guerre pendant une dizaine d'années. J'ai travaillé sur des sujets politiques, géopolitiques, donc à des années-lumière de la thématique qu'on va aborder, même si j'ai été confronté sur des terrains de guerre à la mort évidemment. Mais ce qui m'a poussé à m'intéresser à ce sujet d'une manière très rationnelle et scientifique, c'est la mort de mon frère qui a été tué devant moi en Afghanistan en 2001 dans un accident de voiture. Voilà, on n'est jamais préparé quand on a 30 ans, 35 ans à vivre ce type d'événement. Et moi, cet épisode-là a réveillé voilà, tout un questionnement qu'on a toutes et tous quand on est confronté de façon vraiment inattendue à ça. Et moi, j'ai utilisé mes outils de journaliste pour creuser cette question-là. Quand j'ai été confronté à la mort, je pensais que la question de la mort, du sens de la vie et potentiellement d'une vie après relevait uniquement du religieux. Et une succession de hasards m'a montré qu'il était possible scientifiquement d'aborder ce sujet-là, notamment à travers l'étude, par exemple, des expériences de mort imminente, chose que vous avez sans doute entendu évoquer, des gens qui, pendant un arrêt cardiaque, une opération qui tourne mal, un accident de voiture ou d'autres circonstances dramatiques, vivent à l'inverse d'avoir été complètement inconscients parce que leur cerveau à ce moment-là était en cessation d'activité ou en sérieusement impacté. Plutôt que d'être complètement inconscient, ces gens-là disent « Non, j'étais très très conscient, au contraire, je suis sorti de mon corps, j'ai observé la scène du dessus, j'ai vu un tunnel de lumière, etc. etc. » Bon, moi, comme la plupart des gens, sans y avoir réfléchi, sans m'y être intéressé, je pensais que ces trucs-là, c'était des hallucinations, des rêves, enfin un truc lié au cerveau, un petit peu en panique. Et puis, en commençant à travailler dessus, avec cet objectif d'essayer de comprendre ce qui était arrivé à mon frère, j'ai découvert des chercheurs qui avaient étudié les expériences de mort imminente et qui disaient, pour vous la faire très courte, non, ces expériences n'ont rien à voir avec un processus hallucinatoire, c'est pas quelque chose qui est lié manifestement à un cerveau en souffrance, parce que quand un cerveau est en souffrance, il ne génère pas des expériences aussi puissantes, aussi impactantes que celles-ci. Et puis surtout, il y a des caractéristiques de ces expériences-là qui sont encore inexpliquées aujourd'hui. Le fait, par exemple, que des gens disent être sortis de leur corps et avoir observé l'environnement dans lequel elle se trouvait. Par exemple, une personne qui a un accident de voiture et qui dit « j'étais au-dessus de la Seine, je voyais les pompiers essayer de me désincarcérer, etc. etc. » Et quand on fait, là c'est là où mon ADN de journaliste reprend les commandes, bah là je vais enquêter par exemple sur ce type de témoignage. Je vais rencontrer les médecins qui ont été impliqués dans la réanimation, je vais interroger le témoin, je vais interroger toutes les personnes autour, et c'est là qu'en faisant ce boulot d'enquête complètement cartésien, tu t'aperçois que, bah oui, des gens décrivent des choses très spécifiques qui, au moment où elles ont vécu cette expérience, n'étaient absolument pas en capacité de l'observer. Par exemple, quelqu'un qui est en train d'être opéré du foie parce qu'il s'est tiré une balle dans le foie et qu'il est inconscient sur une table d'opération, qui est en train de décrire ce qui se passe dans le couloir d'à côté parce qu'il dit qu'il a traversé le mur avec son esprit et qu'il a vu ce qui se passait dans le couloir. Et c'est très dérangeant de s'apercevoir que quand tu vérifies ça, ce qu'il décrit, c'est ce qui s'est réellement passé. Et là, je parle pas d'un seul cas ou de deux, trois cas anecdotiques, je parle de centaines et de centaines, voire de milliers de cas qui se produisent et qui peuvent être vérifiés et investigués avec une méthode journalistique. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup troublé, parce que je me dis, mais c'est quand même aberrant que si ces phénomènes se produisent comme ils se produisent réellement, s'ils peuvent être vérifiés, si en faisant un travail de recherche et de vérification journalistique, je peux attester que ça s'est réellement produit, comment ça se fait qu'on continue à considérer que ces sujets-là sont du paranormal, du surnaturel, enfin tous ces termes un peu méprisants, alors que manifestement, il y a vraiment des scientifiques qui travaillent dessus. Et ça a été le début de mon travail d'enquête qui dure depuis 20 ans aujourd'hui.
Oui, il y a eu notamment cet épisode avec le dentier que j'ai entendu, que tu racontais, un patient qui a eu, je crois, un arrêt cardiaque, qui est hospitalisé. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? J'imagine que tu as plein d'exemples comme ça, mais c'est quand même incroyable. Quand je t'ai entendu parler de ça, ça paraît fou.
Oui, celui-là, c'est un cas éloquent, effectivement, qui fait partie des cas étudiés par un cardiologue hollandais qui a publié en fait la plus grosse étude scientifique sur les expériences de mort imminente, publiée dans The Lancet, une revue médicale internationale. C'est le cas d'un monsieur qui a été retrouvé en fait inconscient sur la voie publique, en coma. Il y a eu une tentative de réanimation, il a été emmené à l'hôpital, il est arrivé à l'hôpital, il était déjà bleu, donc complètement cyanosé, donc en état de coma complet. Dans la précipitation, on a essayé de continuer la réanimation, de le ramener. On s'est aperçu que c'était assez compliqué, donc il a fallu l'intuber pour pouvoir le faire respirer de façon artificielle. L'infirmière, quand tenté l'intubation, s'est aperçue qu'il avait un dentier qui gênait un petit peu, donc elle a enlevé le dentier. Pourtant, le type était assez jeune, il avait une quarantaine d'années. Et elle a enlevé le dentier, elle a intubé avec succès, et puis au bout d'une heure, un peu plus d'une heure de réanimation, ils ont réussi à stabiliser le monsieur, qui était toujours inconscient, et à le sortir de la procédure de réanimation. Il l'avait ramené. Et quand le type s'est réveillé en salle de réanimation, il était un peu embêté parce qu'il avait plus de dentier, mais il avait lui vécu ce qu'on appelle classiquement une expérience de mort imminente, c'est-à-dire que pendant la tentative de réanimation, plutôt que d'être complètement inconscient, il était au-dessus de son corps en train d'observer tout ce qui se passait. Et la preuve en a été apportée parce que à peu près une semaine après sa réanimation, personne ne retrouvait son dentier. Et l'infirmière qui avait procédé à l'intubation et avait passé une semaine de congé était revenue à l'hôpital. Et quand le patient voit cette infirmière entrer dans sa chambre, il dit « Ah ben c'est elle qui m'a enlevé mes dents et qui sait où elle les a mis. » Et effectivement, l'infirmière était assez choquée parce que le type était complètement inconscient quand elle avait fait ça. Et elle avait effectivement enlevé le dentier, elle l'avait posé sur un chariot qui était parti avec le matériel médical ailleurs. Et l'histoire ne dit pas si le dentier a été retrouvé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il faut savoir... pendant la tentative de réanimation, le type n'était pas en arrêt cardiaque, il était en ce qu'on appelle en défibrillation ventriculaire, c'est-à-dire que son cœur ne fonctionne pas bien, il fonctionne un petit peu et puis il s'arrête. Ça a pour conséquence que la pression sanguine est à 30-40% de sa capacité habituelle. Ça veut dire que le cerveau, il n'est pas irrigué à ce moment-là. Il est en très, très grande souffrance. Il n'y a pas d'activité qui puisse être soutenue. Et les tentatives de réanimation permettent que la personne ne meure pas, parce qu'on envoie quand même un tout petit peu de sang, un tout petit peu de façon épisodique dans le cerveau. Mais à aucun moment, toutes les études scientifiques sur le fonctionnement du cerveau nous montrent qu'on ne peut, avec ce type d'activité extrêmement restreinte, avoir une expérience de conscience. Pourtant, c'est non seulement ce qui se passe avec ce monsieur, mais il décrit, comme la plupart et tous les expérienceurs de mort imminente, il décrit une expérience de conscience très, très claire, très nette. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on peut avoir, par exemple, quand on boit une demi-bouteille de whisky, on va avoir une conscience très altérée, on voit mal, on se tient pas bien, on a des problèmes moteurs, cognitifs, etc. Là, l'expérience qui est décrite par les expérienceurs, c'est une expérience à l'inverse de ça, où on est peut-être plus réveillé encore qu'on l'est dans notre vie quotidienne comme on l'est maintenant. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement troublant. Et des cas comme celui-ci, je le redis, il y en a des millions.
Là, tu parles des travaux de Monsieur Van Lommel, qui est un cardiologue, et tu disais que je crois que c'est sur plus de 300 personnes, et 18% avaient justement vécu cette expérience de mort imminente. Vincent, je te laisse la parole pour poser ta question.
C'est vrai, moi, j'avais vu un monsieur qui faisait des expériences de décorporisation depuis tout petit, et le reportage était assez incroyable, et il avait fait une étude à Genève, je sais pas si t'en as eu le...
Oui, très bien, oui, j'ai Nicolas Freys.
Voilà. Et c'était exceptionnel. Enfin, je ne sais pas si tu peux nous détailler cette expérience, mais c'était fou.
Oui, bah j'ai interviewé Nicolas Freys et ainsi que Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fournier, qui sont les chercheurs qui ont travaillé avec lui. Et c'était intéressant parce qu'effectivement, voilà quelqu'un qui raconte qu'il sort de son corps et qui peut le faire sur commande. Donc, c'est le sujet rêvé pour faire une expérimentation scientifique sur le long terme. Et c'est ce qu'ont fait Sylvie et Claude-Charles, qui ont mis en évidence la réalité des sortir du corps de cet homme-là. Vous voyez, ce qui est important, c'est que tous ces sujets-là nous paraissent fous. Expérience de mort imminente, je sors de mon corps, etc. Effectivement, ça paraît fou. On est habitué à les considérer comme du surnaturel, du paranormal, un truc super bizarre. Mais on peut faire de la science dessus. On peut faire de la science. Quelqu'un prétend sortir de son corps, ok, très bien, ben on va monter des opérations qui vont, par exemple, consister à mettre une cible quelque part, une cible visuelle dans une autre pièce et à demander à la personne, ok, sors de ton corps et va me dire ce que j'ai mis dans la pièce d'à côté. Et quand on fait ce type d'expérimentation, ça marche. Ça nous apprend des choses sur les différentes dimensions de la conscience. Ça nous apprend des choses sur cette capacité qu'a notre conscience, manifestement, à ne pas être prisonnière de notre corps. Et ça, c'est ce qui ressort, je pense, de à la fois des expériences de mort imminente, de l'étude des sortir du corps, de l'étude de la conscience dans plein d'approches différentes qui vont des neurosciences au chamanisme. Quand on étudie la conscience, on apprend une chose, notre conscience n'est pas bloquée, enfin déjà premièrement, notre conscience n'est pas fabriquée par l'activité de notre cerveau. Ça, c'est fondamental comme information à retenir, parce que ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait consensus dans une partie du monde scientifique et notamment des neurosciences. Notre cerveau ne fabrique pas notre conscience.
Et le cerveau serait plus générateur de conscience, mais récepteur de conscience.
Alors ça, c'est une hypothèse, parce qu'effectivement, le cerveau a forcément un rôle à jouer dans l'expérience que nous faisons de notre état de conscience. Mais plutôt que d'avoir fabriqué la conscience, comme tu le dis, le cerveau servirait plus d'une certaine manière à la capter. C'est très réducteur comme vision, mais l'hypothèse est quand même basée sur ce principe-là. Le cerveau ressemblerait plus à un poste de radio ou un poste de télévision qu'à un plateau de télé. Tu vois, l'émission que tu vois dans ton poste de radio ou dans ton poste de télévision, elle n'est pas fabriquée dans le poste de télévision, au même titre que notre conscience qui se manifeste parce qu'on a un cerveau n'est pas fabriquée dans notre cerveau. Le cerveau jouerait un rôle de capteur, d'appareil de retransmission d'une conscience immatérielle.
Et dans ce reportage, ça m'a vraiment marqué. Tu sais, donc du coup, il pèse son poids. Et quand il sort de son corps, ce monsieur Freys, il voit en fait un différentiel de son poids quand il fait son expérience de conscience modifiée. Et donc, il y a 20 grammes en moins, si je me souviens bien.
Non, c'est de la fiction, par contre.
Ah bon ? Ok.
Oui, c'est 21 grammes. Ouais. Et d'ailleurs, le réalisateur mexicain Iñárritu en a fait un film qui s'appelle 21 grammes avec Javier Bardem. Ça, c'est une belle idée, mais malheureusement, c'est scientifiquement pas attesté.
Ok.
Voilà.
Parce que j'avais l'impression, enfin, de ce qu'il disait, c'était que la mort, c'était 40 grammes et que l'âme active, ça aurait été 20 grammes. Mais bon. Voilà,
non, notre conscience ne pèse rien. Et puis, si tu veux, au moment de la mort, il y a un certain nombre de processus physiologiques qui se mettent instantanément en place, qui peuvent conduire à des variations de quelques grammes de poids, mais ça n'a rien à voir avec le poids d'une âme, c'est juste la transformation organique de notre corps dans les secondes et les minutes qui suivent. Non, notre âme ne pèse rien. C'est ça qui est difficile justement à appréhender, c'est que là on parle de phénomènes subtils et de phénomènes surtout immatériels. La conscience fondamentale, enfin l'aspect fondamental de notre conscience n'est pas du registre du matériel. C'est pas quelque chose qui peut être mesuré, pesé, qui dégage de l'électricité, qui peut être quantifié ou autre. C'est vraiment quelque chose de l'ordre du subtil. Et le niveau matériel dans lequel nous vivons est une manifestation la plus grossière de niveaux qui sont beaucoup plus subtils. Mais voilà, la science telle que l'on l'utilise aujourd'hui ne peut pas observer directement ces phénomènes. Elle peut juste observer les effets de ces phénomènes. Tu vois, on peut objectiver de la réalité phénoménologique d'une expérience de mort imminente, mais on ne peut pas savoir où va cette conscience et de quelle nature elle est faite.
Il y a eu pas mal d'études sur ce sujet-là. Qu'est-ce que les gens qui ont vécu ça vont décrire, une lumière? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un genre de consensus ou c'est vraiment différent selon les personnes?
Alors, pour l'expérience de mort imminente, la description peut être parfois très différente d'un témoin à un autre, mais il y a quand même des constances. Il y a des constances qui se retrouvent chez tous les expérienceurs, qu'ils soient américains, français, indiens ou chinois, quelles que soient justement les différences culturelles. Et la constance, c'est vraiment cette impression de vivre, notamment pour une partie des expérienceurs, une expérience de décorporation, où ils sont à l'extérieur de leur corps. Ils ont une impression de perception beaucoup plus vaste que celle que nous avons maintenant. Maintenant, par exemple, mon champ visuel, moi, il s'étend à peu près à cet angle-là. C'est-à-dire que je ne peux pas voir ce qui se passe derrière ma tête. Pourtant, quand tu vis cette expérience de mort imminente, tu décris une vision à 360 degrés. C'est comme si ce n'est plus tes yeux qui voyaient, mais d'une certaine manière ton esprit, et que du coup, il avait la capacité de capter dans toutes les directions, en bas, en haut, derrière, etc. Il est capable aussi d'avoir une vision à la fois du moindre détail et une vision extrêmement globale d'une situation. Par exemple, je me souviens d'un expérienceur qui était un des premiers hommes que j'avais rencontré, je crois que c'était en 2006 ou 2007, un des premiers témoins. Il avait vécu une expérience de mort imminente pendant une opération et il me décrivait à la fois l'impression de voir le bloc opératoire dans son intégralité, mais de voir aussi des petits détails qu'il y avait, notamment un détail qu'il y avait sous la table d'opération. Après, il y a souvent, c'est pas systématique, et notamment dans certaines cultures en Inde, c'est moins cette sensation de tunnel, par exemple. Mais il y a quand même toujours l'expérience qui consiste à arriver à une sorte de seuil. Alors, soit c'est à travers un tunnel de lumière quand c'est en Occident, soit c'est une rivière dans d'autres contextes. Mais il y a ce seuil au-delà duquel on ne peut pas aller pendant cette expérience de mort imminente. Si on traverse ce seuil, ça veut dire que d'une certaine manière, on ne reviendra pas. C'est peut-être comme si on passait de l'autre côté et qu'on mourait véritablement. Cette lumière, cette sensation d'amour, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. J'ai entendu des femmes, et notamment des mamans, décrire ce sentiment d'amour dans lequel elles baignaient pendant cette expérience. Et elles décrivaient un sentiment d'amour qui leur semblait bien supérieur à l'amour que tu peux éprouver pour tes enfants. Donc, venant d'une maman, enfin, ou d'un papa même d'ailleurs, moi je suis papa aussi, venant d'un parent, dire que ce qu'on éprouve dans cet état-là dépasse de énormément le sentiment d'amour qu'on peut expérimenter nous pour un conjoint ou nos enfants, c'est troublant. Mais cet amour n'est pas décrit comme un sentiment, c'est pas le truc New Age sympa, ça y est, on est dans le bonheur absolu, c'est une sorte d'état d'harmonie, d'état de lumière, d'état de
ouais, paix. Il y a un état de paix aussi.
Une paix fondamentale, oui. Voilà, et puis surtout, l'autre caractéristique, c'est que le temps et l'espace ne semblent plus avoir du tout d'importance. C'est-à-dire qu'une personne peut vivre une expérience de mort imminente en ayant l'impression de sortir de son corps dans un bloc opératoire à Marseille, je dis n'importe quoi, et puis tout d'un coup se mettre à penser « Oh là là, mais ma mère va être triste », sauf que la maman, elle habite à 600 km, et instantanément, on se retrouve à côté de la maman à 600 km, comme si les 600 km avaient été effacés en une fraction de seconde. Donc le temps, l'espace ne semble plus vraiment avoir d'incidence. Et c'est ce qu'on peut croiser quand on interroge des personnes qui ont vécu d'autres types d'expériences liées à l'expansion de conscience. Je pense à une expérience de chamanisme ou des expériences sous psychotropes qui permettent de mettre en sommeil des zones du cerveau et de revenir à une forme fondamentale de conscience, où là, le temps et l'espace semblent aussi avoir été complètement gommés.
Et est-ce que tu pourrais nous définir la conscience? Parce que si je comprends bien ce que tu nous dis, c'est que en fait, on est capable d'avoir des expériences de conscience modifiées. Tu vois, moi, je guide des respirations Wim Hof, où il peut avoir cette modification de la conscience et vivre tout ce que tu décris, hein, beaucoup d'amour, l'espace-temps qui se modifie. Mais quelle serait la définition pour toi de cette conscience?
Je suis incapable de répondre à une telle question. Tu Tu sais, il y a les physiciens quantiques qui disent que si vous trouvez un physicien qui vous explique ce que c'est que la physique quantique, c'est qu'il s'est trompé. Je pense qu'avec la conscience, on est dans le même registre. Dans les différentes traditions spirituelles, tu as des approches métaphoriques pour essayer de te dire ce que pourrait être la conscience, mais c'est toujours extrêmement métaphorique. Et je pense qu'à un certain niveau de définition, on rentre dans une forme de... On est coincé par l'emploi de notre langage qui n'est pas capable de décrire les différentes dimensions de la conscience. Certaines traditions spirituelles font de la conscience le fondement ultime de la réalité qui nous constitue et que tout est conscience. Après, moi, on se perd un petit peu dans ces notions-là. Moi, je ne suis pas philosophe. J'ai un intérêt pour certaines traditions spirituelles qui aujourd'hui éclairent la science d'un regard intéressant. Je pense au bouddhisme ou à l'hindouisme, mais je suis loin d'être un spécialiste. Moi, ce que je me borne à mettre en évidence, c'est le travail d'un certain nombre de chercheurs occidentaux, américains, européens, qui s'interrogent sur la nature de la conscience et mettent en évidence la réalité d'une dimension plus fondamentale de notre conscience qui n'est pas liée à l'activité de notre cerveau et de notre corps. Donc ça, c'est déjà colossal de faire le constat que quand scientifiquement on s'interroge sur le sujet, on peut mettre en évidence des éléments de preuve qui attestent que notre conscience survit à la mort de notre corps. Mais après, qu'est-ce qu'elle est, où elle va, où est-ce qu'elle... Ça, on change de registre et on devient... Enfin, c'est plus un journaliste qui peut répondre à ça et moi, je ne suis que journaliste, malheureusement, sur ce sujet.
Après avoir fait cette enquête, donc la toute première, tu as fait un nouveau livre où là tu vas cacher justement des objets dans le tombeau de ton papa. Ensuite, tu as sorti ce livre-là récemment où tu vas enquêter justement sur des médiums, trouver des réponses. Pourquoi cette démarche? Pour voir si on pouvait, entre guillemets, communiquer avec les défunts. Est-ce que tu pourrais nous expliquer cette démarche?
Parce que pour moi, la preuve de la survie de la conscience, elle peut venir de plein d'angles différents. Tu vois, les études en neurosciences sur la nature de la conscience permettent de mettre en évidence la fragilité des modèles matérialistes dans lesquels nous vivons. Les expériences de mort imminente viennent encore plus fragiliser cette idée que la conscience est enfermée dans notre cerveau et que toutes nos expériences de conscience sont fabriquées dans le cerveau. C'est exactement l'inverse qui est dit par les expériences de mort imminente. Et puis, il y a les expériences en fin de vie qui nous apportent des informations extrêmement intéressantes aussi sur le sujet. Et parmi tous ces sujets, il y a aussi le sujet de la médiumnité. Ces hommes, ces femmes qui prétendent communiquer avec des défunts, voilà, ça paraît complètement dingue, ça paraît être du cinéma américain. Et pourtant, on peut aussi faire de la science là-dessus, on peut aussi mettre ces gens dans un protocole de recherche rigoureux qui permette de démontrer que ce qu'ils disent est réel, comment on fait, comment est-ce qu'on élimine toutes les causes possibles, comment est-ce qu'on est sûr que c'est pas des charlatans, etc. Enfin voilà tout un nombre de protocoles qui peuvent être mis en place pour tester ces gens-là. Et effectivement, depuis presque 20 ans, je côtoie des médiums en Europe et ailleurs, et je teste tous ceux qui sont d'accord d'être testés avec des protocoles notamment qui ont été mis en place par des équipes de recherche dont un ancien professeur de Harvard et ça donne des résultats complètement bluffants. Effectivement, le dernier livre que j'ai publié il y a quelques mois de ça, La Preuve, est une recherche typiquement de cette nature-là, c'est-à-dire que je suis allé voir des médiums avec la photo d'une jeune fille qui a été tuée par son mari il y a 15 ans de ça. Au moment où je fais les expériences, moi, je sais quasiment rien de cette jeune fille. Je sais qu'elle s'appelle Aurélie. Je sais qu'elle a été tuée par son mari. C'est tout. Je sais rien de sa vie. Je sais rien des circonstances du drame. Je sais pas pourquoi c'est arrivé. J'ai juste un accord avec le papa d'Aurélie qui m'a autorisé à monter cette expérience avec la photo de sa fille. Mais je lui ai demandé de ne rien me dire d'autre pour que justement, face au médium, je ne puisse pas, sans même m'en rendre compte, donner peut-être des indications sur des choses que je saurais. Donc là, ne sachant rien, voilà, je donne la photo au médium et je me tais. Je leur dis, cette jeune fille, elle est décédée. Je leur donne pas le prénom, je ne dis pas pourquoi, etc. Je dis, cette jeune fille est décédée. Avec la photo, communiquez avec elle. Et là, j'enregistre. J'enregistre la séance qui dure en général une demi-heure, 45 minutes, parfois une heure. Et les médiums disent communiquer avec Aurélie. Et à travers eux, Aurélie s'exprime et donne un certain nombre de détails. Si je suis aussi... assuré sur le fait que ça soit vraiment Aurélie qui donne ces détails, c'est que tous les détails qui ont été donnés par les 7 médiums que j'ai testés sont tous convergents, c'est-à-dire qu'ils vont tous dans la même direction, et parfois les détails sont extrêmement précis. Et donc toutes les explications conventionnelles, c'est des charlatans, ils ont triché, bon bah ça, Quand je teste le médium, j'arrive avec la photo. Ils n'avaient pas la photo avant. Ils n'avaient aucun moyen d'aller chercher des informations au préalable. Et surtout, pour moi, la chose la plus importante, c'est l'analyse en fait du degré de précision des informations. Parce que on peut se faire abuser en toute bonne foi en ayant en face de soi quelqu'un qui va être convaincant, mais qui, quand on va réfléchir et analyser un petit peu la façon dont il a communiqué, ne nous a donné que des informations extrêmement vagues et générales qui pourraient s'appliquer à n'importe qui. Et en fait, là, le travail a consisté pour moi à enregistrer les séances sans faire aucun retour au médium, sans leur dire c'est bon, c'est pas bon, etc., vu que je ne savais rien. Une fois que toutes les séances sont faites, je les retranscris par écrit, et avec le papa d'Aurélie, on a analysé chacune de ces séances en stabilotant, ça c'est juste, ça me dit quelque chose, ça me dit rien, etc. Et c'est là, je dirais, d'une certaine manière, qu'on a vu apparaître la véracité, la précision des communications, parce que les médiums ont décrit les circonstances de la mort d'Aurélie, les détails, et clou de l'enquête pour moi, enfin qui a été extrêmement bouleversant, bien que je travaille depuis des années sur le sujet, ça m'a quand même surpris. Plusieurs médiums ont parlé de quelque chose d'extrêmement important, manifestement, mais qui ne disait rien au papa d'Aurélie, qui manifestement était pas au courant de ça. Je ne veux pas tout spoiler pour ne pas divulguer cette révélation dans le livre. Et en fait, pour tout vous dire, il s'avère que plusieurs médiums, donc 4 médiums, ont vu pourquoi ce drame est arrivé, chose que les parents d'Aurélie ignoraient et qui a pu être explicité grâce à ce test-là. Donc voilà, si vous voulez, moi, par rapport à cette question des médiums, il y a 1000 questions légitimes qui se posent. Oui, mais c'est pas possible. Oui, mais ça peut être des mentalistes. Oui, ça peut être psychologique, etc. Et par exemple, sur la question du mentalisme, pour justement essayer de voir si la médiumnité c'était du mentalisme, j'ai testé un mentaliste. Je suis allé proposer à Fabien Olicard, qui est un des mentalistes les plus célèbres de France, de faire le test exactement comme je l'avais fait avec les médiums. Donc je ne lui ai rien dit, je lui ai donné la photo, je lui ai dit voilà, cette jeune fille est décédée, qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Et en bon mentaliste, Fabien a regardé la photo et a pu me donner 2-3 indications psychologiques sur le caractère de cette jeune fille au moment où a été prise la photo, mais en aucun cas il a été capable de me dire elle est morte comme si, elle aimait ça dans la vie, elle a fait ci, elle a fait ça, alors que c'est ce que les médiums, eux, les uns après les autres, m'ont donné, et parfois avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Donc, moi, de manière générale, voilà, j'ai pas de sujet tabou aujourd'hui. Y a pas de question qui soit trop farfelue à être posée. Il y a juste des mauvaises méthodes pour aborder ces questions-là. Mais quand on le fait rigoureusement, quand on s'inspire des travaux scientifiques qui ont été faits, et notamment en l'occurrence là aujourd'hui sur la médiumnité, on s'aperçoit qu'il y a des méthodes qui permettent de mettre en évidence le caractère complètement inexpliqué d'un certain nombre de phénomènes, dont la médiumnité dont on parle maintenant.
Tu sais, on vit dans un monde qui est très scientifique, où on cherche la preuve scientifique et même l'inexplicable est voué à être expliqué. Comment tu appelles ton livre La Preuve ? Quel est le poids de la preuve que tu amènes ? Parce que c'est une façon journalistique d'amener une preuve, mais quel est le poids par rapport à une preuve scientifique, par exemple ?
Bah, tu poses une question essentielle, en fait. Qui interroge vraiment sur ce que l'on appelle une preuve en science. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve en science ? En anglais, il y a des termes plus appropriés. Il y a proof ou il y a evidence. Et pour moi, evidence, c'est vraiment plus ce qui correspond en fait à une réelle approche scientifique. D'une certaine manière, de façon absolue, le mot preuve ne peut être expliqué et utilisé qu'en mathématiques. Parce qu'il y a des preuves de la réalité d'une équation qu'en mathématiques. En science du comportement, même en physique, tu fais pas la preuve d'un phénomène, tu as des éléments de preuve qui statistiquement valident ou invalident ton hypothèse. Donc moi, le terme de preuve et le titre de mon livre, je l'emploie plus dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai plus le sentiment que la science fonctionne comme une cour de justice, où tu essayes de faire la preuve de l'hypothèse que tu soulèves, en amenant des éléments les uns après les autres. Et au bout d'un moment, tes éléments ont atteint un seuil suffisant pour être convaincants et convaincre, par exemple, un groupe de jury de la culpabilité de la personne qui est accusée. En science, c'est un peu la même chose. Quand on essaye de prouver l'existence du tachyon, par exemple, qui est une molécule subatomique, on fait des expériences dans des accélérateurs et dans des grands détecteurs de pour essayer de détecter la réalité de cette particule. Et les expériences ne permettent pas de prouver à 100% que cette particule est réelle. Ces expériences permettent de d'observer cette particule avec un degré de certitude statistiquement tellement énorme que ça veut dire qu'on a prouvé la réalité de cette particule. Et c'est un peu le sens de ce que j'avance dans mon livre La Preuve, mais dans le précédent livre aussi qui s'appelle La mort n'existe pas, dans lequel j'amène tous ces éléments de preuve qui, les uns avec, après les autres, font pencher la balance du côté de cette quasi-certitude que la vie se poursuit après la mort.
Et comment tu pourrais expliquer pour nos auditeurs, comme moi notamment, qui n'ont jamais fait un échange avec un médium, comment tu pourrais décrire cette communication? Parce que des fois, on imagine une ligne directe avec le défunt de façon imagée. C'est quoi? C'est une interaction? Comment ça se passe? Il y a des mots, il y a des sensations, des émotions. Tu dis justement que la différence entre Fabien Olicard et le médium, c'est que le médium, il est très affirmé. Il va vraiment dire ce qu'il ressent. Il ne va pas poser des questions. Il va dire, ben, là, je la sens très comme ça, très comme ceci. Comment tu pourrais nous expliquer un petit peu tout ça?
Bah, c'est exactement ça, en fait. Le médium, alors tu as bien souligné ça, le médium ne parle pas avec un défunt comme on parlerait au téléphone. Ça, il faut vraiment s'enlever cette idée qui parfois est véhiculée par certains films. Le médium n'est pas à côté du défunt et puis discute avec le défunt comme là on est en train de discuter. On n'est pas dans du langage, on n'est pas dans du langage verbal. Parfois, les médiums disent entendre un mot, un prénom, un tout petit bout de phrase, mais de manière plus générale, c'est plutôt une sorte de transmission de connaissances de manière sensorielle. C'est difficile à décrire, hein. Je questionne vraiment les médiums les uns après les autres dans le livre sur ça, comment est-ce que vous ressentez, comment ça se passe, etc. Donc ils arrivent quand même à mettre des mots. Globalement, c'est plus une sorte de connaissances qui les pénètrent et qui les habitent tout d'un coup. C'est un peu comme si... l'exemple est difficile, mais c'est un peu comme si je vous demandais là de vous rappeler du film que vous avez vu hier soir, si vous avez regardé un film, et instantanément vous allez avoir tout le film qui va vous revenir à l'esprit, avec des scènes, avec peut-être des émotions, avec peut-être même un frisson si jamais ce film a été très impressionnant. Voilà, tout ça vient instantanément. Donc la façon dont les médiums travaillent, c'est ça. Ils décrivent la réception d'une information globale avec des éléments qui peuvent avoir trait à la vie du défunt, au moment de sa mort, à plein de détails de son existence. Et dans les minutes qui suivent, c'est-à-dire dans le déroulé de la séance par la suite, dans un espèce de va-et-vient, le médium essaye de verbaliser et de comprendre la chronologie des événements qui lui sont donnés. Et en ce sens, le défunt aide en donnant à nouveau des éléments sensoriels, en faisant ressentir son émotion à lui. Si par exemple le médium comprend complètement de travers ce qui a été donné, il peut ressentir une forme d'énervement, d'agacement du défunt. Si à l'inverse c'est juste, il va ressentir plutôt quelque chose de très fluide. Et parfois le défunt peut parvenir à donner un mot, une lettre, ou à envoyer un flash visuel d'une scène de vie, d'une maison, de quelque chose qui peut donner du sens au client en face de lui. Mais c'est toujours très très difficile, et en fait le médium n'est pas vraiment quelqu'un qui communique avec le défunt, c'est plus quelqu'un qui est une forme de passerelle sensorielle avec cette autre dimension dans laquelle sont les défunts, que je préfère appeler d'ailleurs les désincarnés, parce qu'ils ne sont pas morts en fait, ils sont juste vivants ailleurs. Il y a beaucoup d'idées préconçues en fait sur ce qu'est la médiumnité qui participent au fait qu'on la considère comme quelque chose de farfelu ou de pas vraiment réel.
Est-ce que cette compétence, cette qualité, est-ce qu'elle est transmissible? Je m'explique, est-ce que c'est des gens qui naissent avec un don tout simplement, ou est-ce qu'ils peuvent éduquer d'autres personnes à être capables de ressentir ce que tu décris?
Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la médiumnité, c'est de l'intuition. C'est une forme de super-intuition. Donc, est-ce que tu peux poser la question que tu viens de poser avec l'intuition? Est-ce que tu peux naître avec le don pour l'intuition? Est-ce que tu peux le développer? Bien sûr qu'on peut le développer, mais ça demande un travail à très long terme, et puis certaines personnes vont être plus douées que d'autres. Les médiums, eux, pourquoi est-ce que, dès la petite enfance, ils ont des perceptions extrasensorielles qui se sont ouvertes de façon assez magistrale, alors que d'autres non? Ça reste complètement mystérieux aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est à l'origine de ça. J'aime pas tellement le terme de don, parce que il y a un côté un peu excluant dans cette réalité-là, même si je pense que c'est une forme de réalité aussi, au même titre que Kylian Mbappé a un don pour jouer au football que moi je n'ai pas. Mais voilà, on est tous capables aussi de jouer au football, et puis il faudrait que je m'entraîne, il faudrait que je pourrais devenir un joueur à peu près convenable, mais pour ça, enfin, je suis peut-être déjà un peu vieux pour ça.
Mais non.
On a tous. Si tu veux, pour moi, la médiumnité, c'est de la super intuition, une forme de super empathie. Et l'intuition, c'est le langage de notre âme. Cette dimension fondamentale qui nous constitue, elle s'exprime. Elle exprime sa connaissance qu'elle a, immanente quasiment, grâce à l'intuition. Quand tu sens que quelque chose n'est pas positif pour toi, quand tu sens au contraire une forme d'attraction vers une personne, vers un lieu, vers une direction de ta vie, cette intuition profonde, elle est l'émanation d'une forme d'harmonie intérieure que porte notre âme. Et c'est aussi ce biais-là qui permet de devenir sensible à d'autres dimensions de la réalité, celles où vivent les désincarnés, celles où vivent un monde spirituel qui est d'une vastitude infinie. Mais pour ça, il faut apprendre. Il faut apprendre. Et dans notre monde qui considère que tout ça, ce sont des fadaises et des âneries, qui considère que l'intuition, c'est juste une sorte de raisonnement inconscient basé sur nos connaissances, bah, on est incapable de s'ouvrir véritablement à son intuition. Et quand on veut le faire, paradoxalement, c'est sur des sujets qui émotionnellement nous concerne énormément. Oh, je voudrais avoir l'intuition de savoir si cet homme ou cette femme, c'est vraiment le conjoint idéal pour moi. Je voudrais savoir si ce métier-là est fait pour moi. Sauf que quand on demande à avoir un message intuitif, on est instantanément parasité parce qu'on les demande en général sur des questions qui sont émotionnellement très impactantes pour nous. Donc, voilà, je pense que l'intuition, on peut s'y ouvrir, mais ça, c'est un long travail. C'est presque le travail d'une vie, en fait, de réapprendre à communiquer avec son âme.
Et qu'est-ce que tu conseillerais justement à nos auditeurs, peut-être, qui voudrait dire ben, je vais aller voir un médium pour communiquer avec des morts. Déjà, quel est ton ressenti par rapport à ce fait de vouloir essayer de communiquer avec des morts? Tu vois ça positivement ou négativement? Et quel conseil tu donnerais? Parce que là, tu parles peut-être de médiums qui sont très compétents, mais peut-être qu'à contrario, il y en a certains qui sont des charlatans. Comment on peut faire aussi pour distinguer les deux?
Il y a beaucoup de questions là dans ce que tu demandes.
Désolé.
La première, c'est effectivement, quelle est notre attente après le départ de quelqu'un? Quelle est notre attente à aller voir un médium? Est-ce qu'on se trompe pas? Est-ce que c'est pas plutôt d'un psychothérapeute qu'on a besoin? Est-ce que c'est pas d'une blessure et d'une prise en charge psychologique dont on a besoin? Et c'est plus souvent le cas, en fait, parce qu'un médium n'est pas un psy. Pour moi, après des années de recherche et d'expérience et pour avoir côtoyé beaucoup de médiums et beaucoup de gens qui sont allés voir des médiums, j'ai le sentiment que le médium, il sert à une seule chose, à apporter un élément de preuve suffisamment déstabilisant pour nous convaincre que l'espace spirituel est peut-être réel. Voilà. Ça peut, dans notre monde matérialiste qui a tendance à vouloir considérer toutes ces choses-là comme ne pas existantes, n'étant pas existante, pardon, quand tu es confronté à un deuil inattendu, quand tu perds un enfant, quand tu perds un conjoint, dans un accident de voiture, dans un attentat ou d'une maladie, et que tu n'as pas du tout d'ouverture spirituelle, que pour toi tu n'y as jamais réfléchi, ça n'existe pas, tu peux avoir beaucoup de questions qui viennent, comme moi j'avais des questions quand mon frère est mort. D'aller voir un médium n'a pas résolu mon deuil, n'a pas fait le travail de deuil pour moi, mais ça m'a invité à réfléchir. Ça m'a invité à remettre en question les certitudes que j'avais en disant « Mais c'est pas possible que ce médium ait donné autant de détails sur Thomas, mon frère, alors qu'il n'avait aucun moyen de le savoir. Donc, est-ce que réellement il a communiqué avec lui ?» Et à partir de là, commence un chemin de questionnement qui peut t'emmener à lire des livres, à avoir une curiosité personnelle que tu entretiens. C'est l'ouverture d'un chemin pour moi que peut proposer le médium, un chemin de questionnement plus de nature spirituelle. Mais si le médium va être questionné ou si on va voir un médium en s'imaginant que il va remplacer notre travail de deuil, ou alors qu'on va aller le voir tous les mois parce que ça va faire du bien de parler à notre défunt tous les mois, d'une certaine manière, on va figer un cheminement naturel qui est un chemin qui peut nous emmener vers un apaisement à moyen terme et qui là va être bloqué parce qu'on va entretenir l'illusion qu'une communication est possible comme ce qui nous manque d'avoir perdu ce proche. Donc, c'est un peu comme tout, quoi. C'est ponctuellement, une fois, ça peut être extrêmement aidant dans un parcours, mais ça peut aussi devenir extrêmement compliqué et sclérosant. Après, pour se prémunir des charlatans, ou pour moi, des gens qui sont plus dangereux encore, qui ne sont pas forcément des charlatans, qui sont des gens qui en toute bonne foi pensent être médium, mais qui ne le sont pas. Il faut savoir une chose très simple, c'est que le médium, il n'a pas besoin de vous pour communiquer avec un défunt. Il n'a pas besoin de vous poser de questions, il n'a pas besoin d'avoir des informations. Donc quand vous prenez rendez-vous, vous dites « je prends rendez-vous pour avoir une communication avec un défunt », point. Vous ne dites pas qui c'est, vous ne donnez surtout pas son prénom, vous ne donnez surtout pas les circonstances du décès, vous dites « je viens communiquer avec un défunt ». Si le médium vous pose des questions ou son secrétaire vous pose des questions, vous dites « je ne vous dis rien, je veux communiquer avec un défunt ». Vous avez besoin de quoi ? En général, les médiums ont besoin d'une photo, ça les aide d'une certaine manière à focaliser l'ouverture avec le désincarné avec lequel ils veulent communiquer. Et le jour du rendez-vous, vous asseyez face au médium, vous lui donnez la photo et vous lui dites « maintenant je ne vous dis plus rien ». C'est vraiment important pour moi que tout ce que vous allez dire puisse être, je puisse avoir la certitude que ça vient vraiment de mon défunt. Je ne vais pas vous donner la moindre indication. Et si le médium râle, s'il commence à vous faire des histoires, foutez le camp, c'est pas un médium, quoi. Et demandez à enregistrer aussi. Si vous enregistrez, vous serez moins dans l'émotion quand vous réécouterez la séance une heure plus tard ou le lendemain ou une semaine après, avec éventuellement d'autres personnes, vous serez plus en capacité de vous dire « waouh, là, c'est vraiment impressionnant, il m'a donné ce détail-là, j'ai parlé de rien avant, et ça peut être vraiment une preuve qu'il communiquait vraiment avec mon défunt. » Mais voilà, pendant les premières minutes, les premières 10 minutes, 15 minutes de la séance, le médium, en fait, il doit entrer dans une forme de captation du monde invisible, et il n'a pas besoin de vous pour ça. Il n'a pas besoin de vous poser des questions. Il va ressentir des choses qui vont progressivement devenir un peu plus claires. Il va exprimer un certain nombre de choses. Mais faites à ce moment-là très très attention au retour que vous lui faites pour ne pas lui donner des informations qu'il n'aurait pas captées lui-même. C'est vraiment un travail de vigilance. Et c'est un travail de vigilance qui est peut-être difficile à faire, d'autant plus qu'on est dans cet état de souffrance et d'espérance folle, à tel point que le mentaliste, là, Fabien Olicard, préconise, lui, dans le bouquin, il me dit, mais peut-être qu'il vaut mieux envoyer un ami, en fait, aller voir le médium. Si vous avez perdu votre conjoint ou votre enfant et que vous voulez communiquer avec lui, vous allez être dans une attente folle, vous allez avoir des difficultés à contrôler votre émotion. Donc peut-être que dans un souci d'objectivité, il serait plus judicieux d'envoyer votre meilleur ami en consultation avec la photo de votre enfant et votre meilleur ami sera plus, lui, en capacité d'être vraiment dans la retenue. Pour moi, c'est ça que peut apporter un médium. Si on est vraiment vigilant à ce que l'on donne et au fait qu'on ne donne rien comme information, si des informations proviennent et sont exprimées par le médium, elles ne peuvent venir que d'un seul endroit, ce défunt-là, le défunt avec qui vous essayez de communiquer. Mais pour ça, il faut être vraiment sûr de ne pas avoir donné les informations sans même s'en être rendu compte avant.
Et comment t'expliques que des fois, ça peut paraître très clair? Je prends notamment cet exemple où tu dis, je crois que c'était un médium qui s'appelait Henri, qui était mort dans il fait un spectacle et justement il dit, mais il y a un défunt qui est mort dans une baignoire et que personne, justement, personne dit c'est moi, et à la fin il vient le voir et il lui explique, et que là on a l'impression vraiment que le défunt il insiste et que c'est très clair, c'est limpide, et qu'à contrario, des fois ça peut paraître très flou, très, très lointain. Comment se placer vis-à-vis de ça?
Regarde simplement une conversation entre deux personnes au téléphone dont l'une des deux passe dans un tunnel ou avec un Skype qui marche pas bien. La communication médiumnique, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est pas une communication avec des mots. Donc parfois, le médium va être en capacité de capter une bribe d'information de façon très précise et va pouvoir la retranscrire. Mais c'est pas une phrase. C'est pas quelque chose de clair pour lui. C'est vraiment un paysage inconnu qui se révèle à ses yeux et dans lequel il ne sait pas quelles sont les choses importantes. C'est extrêmement fragmentaire. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je veux vraiment alerter sur le fait que la médiumnité ne permet pas une conversation avec votre défunt. Les séances où vous imaginez que parce que le défunt se sera fait reconnaître avec un ou deux détails, vous pouvez ensuite poser plein de questions et que le médium vous répond. Des questions du style, est-ce qu'il pense que je peux vendre ma maison maintenant ou est-ce que je peux refaire ma vie, etc. Ça n'a aucun sens de poser cette question-là parce que c'est pas le défunt qui va être capable de répondre. Et quand bien même le défunt aurait quelque chose à dire, on n'a jamais de certitude que c'est vraiment le médium qui va pouvoir le traduire correctement. L'inconscient du médium, et ça c'est ce que je mets en évidence beaucoup dans le livre, l'inconscient du médium participe énormément à une séance et peut parasiter beaucoup, beaucoup de messages. Donc, voilà, on peut faire la preuve qu'il y a une transmission de connaissances entre notre dimension et celle où semblent vivre des êtres désincarnés qui sont manifestement pas morts, mais voilà, ça reste fragile, ça reste extrêmement ténu et ça demande d'être constamment en vigilance et d'opérer son discernement.
Et j'ai pas lu ton livre sur justement les objets que tu as cachés dans le tombeau. Est-ce que, sans non plus trop en parler et résumer le livre, est-ce que tu as été aussi impressionné? Est-ce qu'il y a eu un degré de précision important? Parce que c'est toi qui as caché ces objets-là.
Oui.
Et derrière, après, tu es allé voir des médiums et tu leur as demandé comment ça s'est passé aussi. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous... Parce que là, c'est vraiment concret. Des fois, on peut se dire qu'avec des termes,
j'avais caché les objets dans le cercueil de mon père. Et un an après, je suis allé tester des médiums sans rien leur dire du tout. C'est-à-dire sans leur dire « j'ai caché des objets, dites-moi desquels il s'agit ». En disant rien. C'est-à-dire que je leur disais, je veux faire une interview de vous. En fait, le prétexte au livre, c'était, je veux faire une interview de vous sur votre vie et votre parcours. Et on va faire une séance pour voir s'il y a des défunts qui se présentent spontanément autour de moi. Et donc, ça a commencé comme ça. Et donc, il y a effectivement des défunts qui se présentent autour de moi pendant les séances. Et parmi ces défunts, il y a mon père. Et je ne vais pas tout révéler, mais il y a quand même des choses suffisamment extraordinaires qui se sont passées pour que le livre existe. Mais c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui avec la preuve, si ce n'est qu'avec la preuve, je vais encore plus loin parce que, avec la preuve, cette Aurélie, cette jeune fille qui est décédée il y a 15 ans, je la connais pas. Elle me connaît pas. Donc, pourquoi est-ce qu'elle va se manifester? Pourquoi est-ce qu'elle va donner ces détails que moi j'ignore complètement? C'est encore plus fou à la limite parce que j'ai la certitude absolue que c'est pas moi inconsciemment par mon attitude qui aurait pu aider les médiums. Je donne la photo, d'ailleurs. La photo d'Aurélie, la voilà. Voilà Aurélie, je donne cette photo à ces médiums et je leur dis plus rien. Et à partir de là, ils communiquent avec elle et elle leur donne des informations d'une précision que le hasard ou la triche ou le mentalisme ne peuvent absolument pas expliquer.
Tu vois, là, on parle de communication à travers un médium pour interagir avec les désincarnés ou les défunts, comment appréhender notre vie à nous? Parce que tu vois, il y a une discontinuité entre la vie et la mort. J'ai l'impression que toi, dans ton discours, il y a une continuité en fait. Hein. Ce serait juste une continuité entre vie et mort. Et ça me parle aussi sur la continuité entre chacun, toutes les vies actuellement sur Terre. Il y a sûrement une continuité qui nous relie tous. Lié à une conscience commune, je sais pas, est-ce que ça te parle cette notion de continuité?
Oui, c'est d'ailleurs le terme qu'utilise un centre de chercheurs qui travaille sur la conscience. Il parle d'une continuité de conscience. Il y a pas de, c'est pour ça que mon précédent livre s'appelle La mort n'existe pas, parce que du point de vue de la personne qui meurt entre guillemets, il y a pas de mort. Nous, si on voit quelqu'un mourir, il meurt. Effectivement, on voit son corps tout d'un coup s'abandonner, son organisme qui devient sans vie. Mais la personne qui était dans le corps, elle continue à vivre et il n'y a pas d'interruption. Donc cette continuité de conscience, en fait, elle est au cœur de ce que tu découvres dans différentes traditions spirituelles. Et là, encore une fois, moi, je suis moins à l'aise parce que c'est pas mon domaine. Je suis pas théologien. Je m'interroge et je me suis documenté sur différentes traditions spirituelles, mais sans aller vraiment très très au loin. Et puis surtout, il y a quelque chose qui pour moi est vraiment important aujourd'hui, c'est que il y a tout le champ de ce que je partage avec vous là depuis qu'on a commencé cet entretien, qui est du registre qui est accessible à l'enquêteur que je suis, au journaliste que je suis, à l'esprit scientifique cartésien que je suis. Mais dès lors que l'on passe à qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est qu'être mort? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on perçoit? Comment on vit? J'ai vécu, moi, des expériences chamaniques qui m'ont donné à voir et à faire l'expérience d'états modifiés de conscience. Mais ce que ça m'a appris, surtout, c'est que les mots commençaient assez rapidement à être complètement inutiles pour décrire cette réalité bien plus vaste que celle que l'on expérimente au quotidien dans notre corps. Et je pense que là, l'approche réductionniste de la science, les mots, et pour un écrivain que je suis, c'est un crève-cœur, mais il faut que je me range à cette évidence, sont absolument impuissants à décrire ce dont on parle. Et on ne peut commencer à ressentir de quoi on parle qu'en faisant soi-même l'expérience. Et voilà.
C'est très bien. Et c'est vrai que cette question, peut-être qu'on a dû te poser, mais surtout pour nous, je parle en règle générale, hein, les personnes qui sont plutôt croyantes, comment se placer par rapport à cette notion de paradis, d'enfer, dans toutes les religions, on a un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on en conclut? C'est un mirage?
On n'a pas ça dans toutes les religions du tout, non, non.
Okay.
Ça, c'est quelque chose qui est plutôt assez collé aux religions du livre, mais dans l'espace chinois, dans le monde hindou, t'as pas cette notion du bien, du mal, de l'enfer, du paradis. T'as des forces agissantes qui vont dans différentes directions.
On pourrait retrouver tout le monde? Tous les défunts seraient accessibles via un médium? Ou est-ce que certaines personnes seraient injoignables, entre guillemets?
Eh ben oui, parfois ça ne marche pas. Parfois ça ne marche pas. Ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi. Est-ce que ce jour-là, le médium est mal luné ou est-ce que le défunt n'est plus accessible? Il veut pas. C'est encore une fois, ces questions, elles sont légitimes et je me les suis posées moi-même, mais c'est très très difficile d'y répondre objectivement parce que il n'y a pas vraiment de réponse en fait. Tu vois, même toutes ces questions-là, on les pose avec comme présupposé que nous sommes l'individu qui s'exprime. Sauf que notre âme, elle n'est pas l'individu qui s'exprime et que l'on voit dans la glace ce matin. Notre âme, c'est ce continuum de conscience qui est éternel du passé, éternel de notre futur, qui est dans cette forme d'éternité. Mais mon âme, elle n'a pas le visage de Stéphane Alix. Et mon âme, est-ce qu'elle est même limitée à un individu? Est-ce que... Spirituel, il y a différents niveaux de conscience et il y a un niveau dans lequel nous sommes où on peut se percevoir comme des individus, mais notamment l'hindouisme t'explique que le but c'est de s'apercevoir qu'on n'est pas un individu et qu'on est peut-être simplement une goutte d'un océan colossal et que la réalité ultime des choses c'est de s'apercevoir qu'on est un. Voilà, vous m'emmenez encore sur le terrain de la théologie, moi je suis pas, c'est pas mon fort.
C'est pour conclure, désolé bien sûr.
Mais, tout ça, c'est juste pour souligner qu'il faut peut-être avoir un petit peu de conscience dans les questions légitimes qu'on pose, que ces questions-là ne peuvent pas trouver de réponse avec les mots et avec le point de vue qui est le nôtre aujourd'hui d'être humain individualisé, attaché à une personnalité, en ayant la certitude qu'on est ce qu'on est. Quoi.
Et peut-être pour conclure, parce que je crois que ton temps est compté, Stéphane, merci déjà d'être là. Quel serait le conseil à 1000% que tu pourrais donner aux auditeurs pour expérimenter cette notion de... Tu nous as parlé d'intuition, tu vois, cette qualité intuitive qui parfois peut nous dépasser. Quels sont les moyens d'accéder à tout ça?
Pour moi, les états modifiés de conscience sont très intéressants dans le sens... qui nous permettent d'expérimenter des dimensions inconnues de nous-mêmes, soit des dimensions internes, si on peut faire ce distinguo, c'est-à-dire des parts de notre inconscient, de notre histoire personnelle, ou des parts de notre inconscient externe, c'est-à-dire les dimensions transpersonnelles, comme le modélisait le psychiatre Stanislav Grof. Donc il y a aujourd'hui accessible une quantité d'outils de la psychothérapie psychocorporelle, je pense à la respiration holotropique, par exemple, qui s'approche dans les états que ça peut induire des effets du LSD. D'ailleurs, le psychiatre Stanislav Grof avait développé cette technique après que le LSD a été interdit pour induire des états simplement avec la respiration qui peuvent approcher des états transcendants que tu vis sous expérience chamanique. Le chamanisme aussi, hein, qui utilise des substances dans certaines parties d'Amazonie, mais qui dans le reste du monde peut être pratiqué au tambour ou avec des techniques respiratoires. Donc il y a aujourd'hui quantité d'outils qui permettent de découvrir ce que c'est que le chamanisme. Si, pour ceux que ça intéresserait, je conseillerais les livres de l'anthropologue Michael Harner, H-A-R-N-E-R, qui sont édités par Mama Édition en France. Michael Harner, c'est quelqu'un qui, dans les années 60, s'est intéressé à tout ce qu'il y avait de commun dans les approches chamaniques à travers le monde et a développé ce qu'on appelle le core chamanisme, qui est l'essence chamanique, et il a développé justement une approche, une analyse phénoménologique et des outils pour induire des états chamaniques, tout à fait légalement, avec soit le son de tambour, soit avec la respiration. La méditation, bien évidemment, est aussi un espace qui permettent de mettre en sommeil certaines activités, zones de notre cerveau pour expérimenter une plus grande état de conscience. Mais voilà, pour ceux qui sont impatients, comme moi je pouvais l'être, les stages de chamanisme au tambour peuvent bousculer pas mal les choses et être extrêmement enrichissants.
Ben merci beaucoup Stéphane en tout cas pour cet entretien qui était un petit peu hors série pour nous, mais c'était intéressant quand même de parler de ce sujet qui je pense intéressera tout le monde. Un grand merci, je le remontre, La Preuve, ton nouveau livre, et tu avais aussi deux autres livres sur la mort. C'est quoi, La mort n'existe pas?
Il y en a beaucoup, mais le plus sur la mort, important c'est celui que j'ai sorti il y a 2 ans qui s'appelle La mort n'existe pas,
voilà, c'est ça.
Qui est disponible en poche aujourd'hui chez HarperCollins et qui fait vraiment la synthèse de tout ce dont on a parlé et de bien plus. Qui fait la synthèse de 15 ans, plus de 15 ans même d'enquête et d'expérimentation, depuis les expériences de mort imminente jusqu'au chamanisme, en passant par plein d'autres choses. Donc ça, c'est La mort n'existe pas, qui est sorti il y a 2 ans.
Super, on mettra tous les liens en description. Vincent, si tu as une dernière question.
Ouais, Stéphane, je suis instructeur Wim Hof, donc je guide aussi des respirations Wim Hof, où il y a des états de conscience modifiés. Donc je t'invite, si jamais tu passes par Paris, ça serait avec grand plaisir de te partager cette respiration.
Ouais, avec plaisir, merci beaucoup à tous les deux en tout cas.
Allez, nickel. Allez. Merci Stéphane. Salut. Et à bientôt. Ciao.